RCF, il est 5h.
Matière à penser,
une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos
avec Fabrice Hadjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 13e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Saint Bonaventure et la question « La béatitude n'est-elle donnée qu'aux pauvres ?» Nous avons consacré une douzaine d'émissions à saint Thomas d'Aquin, fils de saint Dominique. Il était temps que nous arrivions à un fils de saint François d'Assise avec saint Bonaventure. Car il y a une théologie franciscaine, et même des théologies franciscaines, comme on le verra, très distinctes de la théologie dominicaine. On les a souvent opposées comme des sœurs ennemies. Il vaut mieux les considérer comme des amis qui s'interpellent l'un l'autre, offrant des perspectives complémentaires sur l'inépuisable mystère de la révélation. L'enjeu premier des dominicains, contre l'hérésie cathare, était d'affirmer la bonté de la création. L'enjeu premier des franciscains, contre le règne de l'argent, était d'affirmer la perfection de la pauvreté. L'accent est dès lors moins mis sur la vérité des choses que sur leur caractère de signe, nous tournant vers Dieu et provoquant notre amour. Après le docteur angélique, donc, c'est celui qu'on appelle le docteur séraphique, Bonaventure, que nous allons lire. Écoutons le prologue de son ardent petit traité intitulé « L'incendie de l'amour ».
En m'éveillant, je sens mon âme environnée de ténèbres glaciales et privée de dévotion. Je m'efforce donc de l'échauffer, de l'embraser et de l'élever par un désir ardent au-dessus des choses de la terre. En effet, ce n'est point au milieu d'un repos trop prolongé que l'abondance de l'amour éternel s'est répandue en moi. Ce n'est point lorsque j'ai été surchargé d'occupations corporelles et accablé des fatigues du voyage qu'il m'a été libre de goûter les saintes ardeurs de l'esprit. Ce n'est point non plus lorsque j'ai été outre mesure comblé de consolations et que je m'y suis livré comme si elles eussent dû être mon unique partage. Non, au milieu de tout cela, je me suis senti refroidir et j'ai compris qu'il me fallait mettre de côté tout ce qui, extérieurement, m'était un obstacle. Que tous mes efforts ne devaient tendre qu'à me placer sous le regard du Sauveur, et que ma demeure était au milieu des parfums de son cœur. J'offre donc ce livre, non aux philosophes, ni aux sages du monde, ni aux grands théologiens entièrement appliqués à des questions d'un ordre inférieur, mais aux hommes grossiers et aux gens sans savoir, à ceux qui cherchent plutôt à aimer Dieu qu'à connaître beaucoup de choses. Car ce n'est point dans les disputes, mais dans l'action qu'on apprend l'art d'aimer. Aussi suis-je persuadé que les matières contenues en cet ouvrage ne peuvent être comprises par des hommes versés en tout genre de sciences, mais faibles en l'amour de Jésus-Christ. Ce n'est point pour eux que j'ai entrepris d'écrire, à moins qu'ils ne mettent de côté et n'oublient tout ce qui tient au monde pour se dévouer sans réserve à leur Créateur et ne soupirer qu'après lui. Mais pour cela, il faut commencer par fuir toute dignité terrestre et abhorrer toute ostentation de la science et toute vaine gloire. Ensuite, prenant pour partage la pauvreté la plus profonde, ils doivent s'appliquer sans cesse au divin amour par la prière et la méditation. Alors, une étincelle de la vertu incréée fera briller sa lumière en leur âme et disposera leur cœur à recevoir cet embrasement qui dissipe toute obscurité. Ils s'élèveront au-dessus de ce qui est temporel et se tiendront au pied du trône suprême dans le comble de la paix. En effet, plus on est savant, plus on est apte à aimer, ou du moins, plus on le serait si l'on savait se mépriser soi-même et trouver son bonheur à être méprisé des autres. Or, puisque j'entreprends d'exciter ici tous les hommes à l'amour, et à ce qu'il y a de plus ardent en l'amour, à l'amour surnaturel, je m'efforcerai de répondre à ce but. Que ce livre ait donc pour titre « L'incendie de l'amour ».
Fabrice Hadjadj, quel est le contexte de ce texte ?
Alors c'est vous l'historien, Galdric, je vous laisse nous parler un peu de ce Bonaventura.
Alors, Bonaventure de Bano Reggio, en fait, se nomme Jean à sa naissance. Mais petit, il va tomber très malade et son père, qui est médecin, va tenter par tous les moyens de le guérir. Et voyant que ça ne fonctionne pas, sa mère va invoquer François d'Assise, qui est pas encore saint, qui vient de mourir, mais qui a déjà une dévotion populaire très importante. Et il va guérir. Et en voyant la guérison, sa mère s'exclame « Oh, Bonaventura !» Et cela va décider de son sort, puisque en exclamant ce bon événement, cette belle, l'heureux événement, sa mère va lui affubler un sobriquet qui va lui rester toute sa vie et qu'il prendra comme nom lorsqu'il rentrera chez l'ordre fondé par celui que sa mère a invoqué, Saint François. Donc cet événement est vraiment décisif, on le voit dans la vocation de Bonaventure. Très tôt, donc, il rentre chez les Dominicains, il est envoyé à Paris pour faire des études de théologie. Et il va être très profondément marqué par un de ses enseignants, franciscain également, Alexandre de Halès. Et Alexandre de Halès lui-même sera extrêmement marqué par cet élève qui est particulièrement brillant, mais surtout d'une humilité et d'une bonté qu'il n'a jamais vue ailleurs. Alexandre de Halès dira même qu'il semblerait que le péché, que Adam n'ait pas péché en Bonaventure, qu'il ait été exempt du péché originel, tellement sa bonté est manifeste. Il devient ensuite enseignant de théologie. Et son enseignement est remarquable, non seulement parce que son érudition est immense, mais parce que son érudition n'est jamais cause d'orgueil. Il ne se place jamais au-dessus de la parole de Dieu, il engage sa recherche et sa raison par amour de celui auquel il donne son assentiment. Donc le but de sa recherche et le but de son enseignement, c'est vraiment de mieux connaître l'être aimé, le Christ, et c'est là vraiment la marque de son désir théologique fondamental. Le primat de l'amour, donc, est déterminant, non seulement dans sa vie, mais dans son enseignement. En 1257, il vient d'être nommé professeur à la faculté de théologie de Paris, c'est-à-dire en même temps que Thomas d'Aquin, et ils se connaissent et ils s'estiment les deux. On a des belles histoires de la géographie qui racontent les rencontres différentes entre ces saints.
On ne sait pas lesquelles sont, voilà, sont, on sait pas lesquelles sont légendaires. On raconte que tous les deux, on leur avait commandé d'écrire le nouvel office du Saint-Sacrement et qu'on a tiré au sort celui qui devait lire en premier ce qu'il avait fait, donc les prières liturgiques, les poèmes liturgiques, voilà. Et que Thomas d'Aquin, le sort est échu sur Thomas d'Aquin, qui a lu le premier, effectivement, c'est sa grande poésie, notamment le Laudation, qui est un chef-d'œuvre de la poésie liturgique, et qu'après l'avoir écouté, c'était le tour de Bonaventure a simplement déchiré sa copie.
Et une autre fois, alors qu'il devait parler de la grâce, de la rédemption, Bonaventure a parlé en premier, et pendant qu'il l'écoutait, Thomas d'Aquin aurait vu le crucifix apparaître au-dessus de sa tête. Et donc Thomas d'Aquin n'a pas osé à son tour argumenter. Voilà.
D'où d'ailleurs cette coutume d'inviter un franciscain à prêcher pour la Saint Thomas d'Aquin et chez les dominicains et un dominicain à prêcher pour la François d'Assise, voilà, chez les franciscains. Donc il y a toujours ça. Et cependant, bien sûr, querelle, conflit théologique insurmontable quasiment.
Il est élu ministre général des frères mineurs pendant en l'année où il obtient sa charge de professorat à la faculté de théologie à Paris, et il assumera cette charge pendant 17 ans. Et au bout de ces 17 ans, alors qu'il pense pouvoir enfin se concentrer davantage sur sa théologie et son enseignement, eh bien, il est créé cardinal-évêque par le pape Grégoire X et devient le négociateur officiel du Saint-Siège pour tenter de rétablir la communion perdue avec les églises grecques en 1054. Et il semblerait au Concile de Lyon que les discussions soient en très bonne voie et que la communion semble être quasiment rétablie. Et Bonaventure meurt au milieu de ce concile, qui aura une fin qui ne soit pas particulièrement favorable à la communion, puisque nous sommes encore divisés à ce jour. Mais malgré tout, il sera proclamé docteur de l'Église et notamment docteur de l'unité, aussi vénéré par les Églises orthodoxes.
Oui. Oui, c'est ce qui est très très important dans cette finale de sa vie. Hein, c'est le fait que c'est un pasteur, enfin un homme de gouvernement puisqu'il s'est occupé de l'ordre franciscain, puis un cardinal évêque engagé dans la question d'un schisme et donc d'une réconciliation. Et ça, c'est très différent de Thomas d'Aquin. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'ils s'accordaient profondément parce qu'ils avaient vraiment le sentiment de ne pas disputer, finalement, ou se disputer sur le même plan. Et on l'a entendu dans ce texte hein, de l'incendie de l'amour. La manière qu'a Bonaventure de prendre la parole n'est pas du tout la même. Déjà, cette prise de parole à la première personne, en m'éveillant, je sens mon âme environnée de ténèbres glaciales et privée de dévotion. On entend des accents de Saint-Augustin et même du Saint-Augustin des confessions. Et donc, on est dans une ligne qui est celle alors d'auteurs dont nous n'avons pas trop parlé, notamment ceux de l'école victorine, je pense à Hugues de Saint-Victor, et c'est vrai que Bonaventure ou l'école de Chartres, enfin Bonaventure s'inscrit déjà dans cette ligne-là du XIIe siècle. Il est beaucoup plus proche dans sa manière de dire des pères de l'Église. Et comme vous l'avez dit, cette primauté de l'amour, non qu'elle soit pas aussi chez Thomas d'Aquin, mais là on voit bien que l'enjeu, comme d'un pasteur, hein, c'est d'écrire à des hommes quelconques, et pas de répondre simplement à des disputes théologiques. Il dit je vais m'adresser aussi à des hommes grossiers, à des gens même sans grand savoir. Où ici le savoir, c'est le savoir qui rend apte à aimer. Et donc ça c'est un questionnement qui est un questionnement vraiment de pasteur, parce que le pasteur et le maître de l'ordre des frères mineurs, il a des gens quelconques en fait qui arrivent, qui sont pas des personnes de l'université. Donc on voit vraiment une autre manière d'approcher le même mystère.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, la béatitude n'est-elle donnée qu'aux pauvres? Alors Fabrice Hadjadj, ce texte démarre d'une manière étonnante, et étonnante peut-être d'autant plus pour nous, hommes du XXIe siècle, habitués quand même à un certain confort, puisque d'entrée de jeu, Bonaventure nous dit que dans le confort, en fait, la dévotion s'affaiblit, se tiédit, alors que dans les épreuves, au contraire, dans la fatigue, dans l'adversité, la dévotion semble croître. Et donc, plus que la pauvreté au début, il semble presque être fait question d'une vie rude, pas forcément pauvre, mais d'une vie de labeur.
Alors attention, il faudrait voir ce qui est écrit. D'abord, s'éveiller et constater le froid intérieur, l'absence de dévotion, le moment même où j'éprouve la privation de la dévotion, c'est le moment où déjà j'ai le désir de Dieu. Donc déjà, on voit bien que le désir de Dieu n'est pas d'abord sous une forme positive, d'exaltation, mais au contraire, le niveau de dévotion monte en moi au moment où je me rends compte que je ne suis pas dévot. Donc c'est pour ça que le premier mot, en m'éveillant, il y a quand même un éveil. Et il s'efforce de l'échauffer. Hein, voilà. Donc toute la question hein, c'est de ce texte, l'incendie de l'amour, c'est de passer de la glace au brasier ardent de la charité, hein, fornax ardens caritatis, hein, comme dit les hymnes au cœur de Jésus, la litanie du cœur de Jésus. Et donc là, il remarque qu'il y a plusieurs choses qui empêchent ça, mais pas simplement donc le repos trop prolongé, hein, ça c'est sûr, et donc c'est pas la question du confort, mais pas non plus les occupations corporelles où l'on est accablé par les fatigues du voyage, et pas non plus même les consolations. Ah, c'est quand même étonnant. Donc c'est vrai que il y a d'une part le confort, d'autre part on pourrait dire l'activisme, qui est aussi un problème par rapport à la vie spirituelle. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est l'idée de la consolation. On pourrait dire que ce qui est visé, c'est la consolation. Mais ici, les consolations spirituelles ne permettent pas, ou en tout cas, elles peuvent être là provisoirement pour nous aider. Mais en réalité, la question, c'est précisément de suivre le Christ et de l'aimer. Et le Christ, c'est le Christ crucifié. Je tiens à rappeler que, justement, par rapport au style de Bonaventure, il est l'auteur de cette legenda maior, d'une vie de Saint François. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit une narration, ce qui n'est pas le cas de Thomas d'Aquin. Il a raconté une histoire. D'autre part, il voit dans François un alter Christus, non parce qu'il est le frère des créatures, etc. C'est tout ce François qu'on met en avant aujourd'hui, une sorte de François simplement écologique ou écologiste, enfin en tout cas très économique, parce que on essaye justement de mettre de côté ce qui est le grand événement, qui est la stigmatisation au Mont Alverne. Et ce que met en évidence Bonaventure, c'est le fait que François a été crucifié comme le Christ, enfin, qu'il a reçu miraculeusement les plaies du Christ dans son corps. Et donc, ce rapport à l'amour et aux plaies, à cette ardeur de l'amour qui va aller au-devant de souffrir pour ses frères, c'est quand même au cœur de la pensée de Bonaventure.
Fabrice Sajjad, ce qui est assez étonnant, c'est que on pourrait croire que la pauvreté, c'est un mouvement volontaire, c'est quelque chose que l'on choisit et que l'on met en place. Mais en fait, ce que semble dire Bonaventure, c'est que la vraie pauvreté, elle viendra de la vertu incréée. C'est en fait la véritable pauvreté, on ne peut pas se la donner soi-même, c'est une grâce qui nous vient forcément du Christ.
Alors là, on touche vraiment à ce qui est une grande distinction entre la pensée, je dirais, dominicaine et celle de Thomas et celle de Bonaventure, et donc de François aussi. La pauvreté est vue comme une vertu, vraiment comme une perfection. Et ce n'est pas le cas chez Thomas d'Aquin. La pauvreté n'est pas une vertu. La pauvreté est un état. Peut relever du choix de la pauvreté dans les ordres mendiants et donc des conseils évangéliques, du vœu de pauvreté, mais ça n'est pas une perfection, une vertu en elle-même. On pourrait, du point de vue de Thomas d'Aquin, la pauvreté pourrait en faire mauvais usage et on pourrait, à cause de la pauvreté, tomber dans le vice, etc. Là, la pauvreté est vertu. Alors bien sûr, ça renvoie à la béatitude, c'est-à-dire à la première béatitude. Heureux les pauvres. Et bien sûr, heureux les pauvres en esprit. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une pauvreté extérieure. Il y a forcément une corrélation entre la pauvreté extérieure et la pauvreté intérieure. Vous l'avez dit, la question du règne de l'argent. François est le fils d'un riche drapier d'Assise, à une époque de la montée du pouvoir de la bourgeoisie, de cette bourgeoisie qui va, à un moment donné, l'emporter, enfin chasser les nobles d'Assise, l'aristocratie d'Assise. Et puis après, ces nobles vont revenir, vont reprendre le pouvoir, vont quand même donner aux bourgeois un rôle dans le gouvernement de la cité, et ils vont appeler les bourgeois justement dans ce gouvernement des mineurs, minores, bon, les plus petits, enfin voilà, mais quand même, c'est pas sans lien. Et donc ce que voit François, c'est que l'ordre hiérarchique, aristocratique, historique, dynastique s'effondre, et désormais c'est l'argent qui l'emporte. À tel point que la grande scène, le don du manteau, par exemple, qu'on voit dans les fresques de Giotto à Assise, le fait que ce soit lui, fils du bourgeois, qui donne un manteau pourpre, donc vraiment l'insigne de la noblesse, à un chevalier qui, lui, est le fils d'un noble. Donc tout d'un coup, c'est l'argent qui arrive à obtenir le commerce, l'argent qui arrive à obtenir les signes extérieurs de la noblesse. Et donc c'est un monde qui a l'air d'être renversé par l'argent. Et c'est pour ça que la question, c'est de dire revenir à l'essentiel, qui est ni l'héritage aristocratique, parce que c'est, puisqu'il ne tient pas, il ne tient plus, ni la puissance bourgeoise, mais par la pauvreté, revenir au don de Dieu, la primauté du don de Dieu. Et c'est pour ça que la pauvreté apparaît ici comme une perfection, que la pauvreté matérielle devient signe dans un monde où où l'acquisition des richesses renverse les ordres établis, et où cette pauvreté matérielle est aussi, surtout, le signe d'une pauvreté intérieure, d'une disponibilité intérieure, qui est celle de la réceptivité. Je me vide ici pour être le réceptacle de la grâce.
Ce qui est très beau, c'est que le fait de se vider, le fait d'être disponible à la grâce semble premièrement accessible à ceux qui sont le plus pauvres et pauvres en esprit. Et pourtant, l'aventure va quand même dire, plus on est savant, plus on est apte à aimer.
Oui, sauf que ici, savant, ça n'est pas, ce ne sont pas les arts libéraux, ce n'est pas la connaissance philosophique, on voit bien. Et c'est pour ça que la suite de l'incendie de l'amour, c'est quoi ? C'est de dire, ce savoir passe par ces trois choses. Alors là, on retrouve complètement l'école victorine, bien sûr. On est dans un texte qui est antérieur à l'itinéraire de l'esprit vers Dieu. Donc un texte qui est encore très proche des origines, en fait, des influences de Bonaventure. Il va dire, c'est la lecture des Écritures saintes, la méditation et l'oraison, la prière. Et donc la réceptivité, c'est pas juste une réceptivité, je dirais, informe où je me tourne vers le mystère de Dieu comme étant le non-moi, l'inconnu. Non, c'est d'abord lire les Écritures. Ça, il y a aucun doute, et c'est en ça que Bonaventure est un théologien et un des très grands théologiens. Donc, lire les Écritures, et la première opération de l'incendie de l'amour, c'est la lecture. Mais il faut justement écouter. C'est écoute Israël, ce rapport. Donc, c'est ça, cette pauvreté. C'est la pauvreté de celui qui écoute. Puis, ces Écritures doivent être intériorisées. C'est le sens de la méditation, de cette intériorisation et de cette réinterprétation personnelle. Je rappelle que l'interprétation ici n'est pas une interprétation où il s'agit de savoir ce que veut dire le texte, une herméneutique comme chez les Grecs, ou quelles sont les intentions de l'auteur. L'auteur, c'est l'Esprit Saint qui veut habiter ma vie. Donc ici, c'est plus une prophétique, c'est pas qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur, mais qu'est-ce que ça va me dire, comment je suis transformé. Et donc, la prière... Qui est justement non seulement une préparation après à l'action de charité envers le prochain, mais surtout qui est l'action suprême de la vie chrétienne. C'est une manière de participer à la toute-puissance divine, puisque demander à Dieu et par la prière obtenir, c'est faire agir le Tout-Puissant. Donc on est vraiment dans un ordre qui dépend de cette pauvreté où je me désencombre, on pourrait dire, des savoirs mondains et où je reçois tout à partir des Écritures. Maintenant, les Écritures me retournent bien sûr vers la création, mais la création est elle-même lue comme une Bible. Voilà, c'est pas comme chez Thomas d'Aquin de dire que les choses sont les choses et qu'elles ont une consistance en elles-mêmes contre les gnostiques, contre les cathares, contre les albigeois, mais plutôt de dire toutes les choses font référence à Dieu et sont signes de Dieu. Ce qu'on verra d'ailleurs par la suite chez Don Scott.
Enfin, Monsieur Adjage, nous arrivons au terme de cette émission sur Bonaventure. Est-ce que vous auriez quelque chose en plus de ce texte à nous livrer sur Bonaventure ?
Je voudrais insister sur cette question du bonheur à être méprisé des autres. On retrouve complètement le thème de la joie parfaite dans les Fioretti de François d'Assise. Et bien sûr que Bonaventure dans sa vie a été honoré, exalté, mais il a toujours, et vous l'avez dit à propos de ce que disait Alexandre de Halès et de ce qui frappait quand on le rencontrait, je pense que Thomas d'Aquin se rendait même pas, il y avait peut-être même pas de combat de l'humilité chez Thomas d'Aquin, peut-être parce qu'il était tellement absorbé par son objet de pensée qu'il était absent lui-même, absent aux honneurs, absent, voilà. Alors que Bonaventure, comme pasteur, comme il est exposé, il est au-dessus, il est en position hiérarchique, très nette, mais il savait qu'il fallait accepter d'être méprisé des autres, et y trouver son bonheur, non pas par goût de des choses viles ou de l'abjection ou de sa boue, hein, c'est pas ça, mais c'est simplement pour revenir à cette solitude qui fait que on n'a plus que Dieu, hein, on n'a plus que la parole de Dieu, et justement pour d'une certaine façon récurer le réceptacle, voilà, l'enlever de tout ce qui peut le remplir par ailleurs, pour être dans cette position d'écoute, donc de cette pauvreté qui seule ouvre à la béatitude, parce que c'est elle qui nous ouvre au mystère divin.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Saint Bonaventure, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les vendredis à 14h, les samedis à 10h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.
Nous continuons avec Madeleine Vatel pour la halte spirituelle.
Cette semaine dans halte spirituelle, je vous propose une lecture de Notre-Dame de Paris. Oui, oui, une lecture. Considérons que cet édifice est comme une véritable catéchèse. Paul Amblard, historien de l'art, nous aide à décrypter ce livre de pierre. A tout de suite dans halte spirituelle.
RCF et Radio Notre-Dame vous proposent chaque matin le débat du jour. Plusieurs invités viennent débattre sur un sujet d'actualité. Un débat où chacun pourra donner son point de vue, mais toujours dans un climat apaisé et propice à la réflexion. Le débat du jour, c'est du lundi au vendredi, de 9h10 à 10h sur RCF et rcf.fr.
Ils ont croisé la route du Christ. il raconte cet instant dans Témoin. Chaque semaine, des anonymes, qu'ils soient laïcs ou religieux, partagent leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre. Témoin, c'est ce lundi à 20h30 et à la demande sur rcf.fr.
Vous écoutez RCF à Privas sur le 103.2. Halte spirituelle, présentée par Véronique Alzieux.
Si Notre-Dame de Paris est un livre de pierre, comme l'écrit Victor Hugo, ce n'est pas n'importe quel livre. Au fond, l'histoire que raconte cet édifice, c'est celle d'une alliance entre Dieu et les hommes. C'est l'histoire du salut. Son architecture, ses tympans, ses cloches, ses sculptures, tout célèbre le Créateur, mais aussi le monde. Une véritable catéchèse que vous allez décrypter pour nous, Paul Amblard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, spécialiste de l'art chrétien et en particulier au Moyen-Âge. Et vous publiez chez Salvator un livre intitulé « Notre-Dame de Paris, le symbole des pierres ». Parler de catéchèse pour évoquer un édifice religieux du Moyen-Âge, c'est pas un abus de langage, c'est pas une simple formule. Est-ce qu'on peut dire, Paul Amblard, que c'était une des raisons d'être de ces édifices et de ce qui les constituait?
Oui, il faut dire que l'art au Moyen-Âge, c'est un enseignement. C'est non seulement une catéchèse, mais ça va bien au-delà. Ça pose aussi une question philosophique. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Donc, cet enseignement du Moyen-Âge, vous le comprenez, il a beau être très ancien, il nous concerne toujours aujourd'hui. Et décrypter ce langage qui a été fait d'une façon symbolique, c'est-à-dire avec des petits signes à longueur de temps à décrypter, nous permet d'entrer dans une contemplation qui va au-delà du simple plaisir esthétique, mais qui nous apporte une véritable connaissance, une connaissance de nous-mêmes aussi.
Écrire avec des pierres, plutôt que de le faire avec une plume et l'imprimer, qu'est-ce que ça a de plus? Qu'est-ce que ça représente?
Alors, Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale qui s'élève vers le ciel. Vous avez bien vu que lors de l'incendie de 2019, il y avait eu unanimement une émotion qui s'était emparée des gens, qui n'était pas due simplement au fait que un monument allait disparaître. C'est parce que Notre-Dame de Paris, la cathédrale, représente quelque chose qui va au-delà d'un simple monument. D'ailleurs, les pierres, elles sont visibles par tous et elles s'élèvent. C'est un emblème, ça nous montre une direction. Et cette direction, c'est comme une échelle de Jacob et il s'agit d'élever nos regards. Et la cathédrale, par toute la statuaire qu'elle déploie, il y a des centaines de statues sur Notre-Dame, va se déployer pour nous aider à justement monter ces barreaux de l'échelle progressivement.
Alors on va le faire tout doucement avec vous au cours de ces entretiens, mais si on continue de regarder un peu la physionomie et puis de planter un peu le décor avec vous, Paul Amblard, est-ce qu'on peut dire que tout est symbolique dans une cathédrale et en particulier dans celle de Notre-Dame de Paris?
Oui, tout est symbolique dans une cathédrale ou une église. Au Moyen-Âge, on considère que l'église représente le corps du Christ.
Alors, vous parlez de l'édifice?
De l'édifice en lui-même. Oui. Alors, sans parler de l'iconographie, l'édifice en lui-même est symbolique. C'est-à-dire que les portes vont représenter, du côté de la façade, vont représenter les pieds du Christ. Le transept, ça va être les bras étendus. C'est le crucifix. Et le déambulatoire va représenter la couronne d'épines et la tête du Christ. Le cœur, c'est le cœur saint de Jésus. Donc, rentrer dans une église au Moyen-Âge, vous voyez, avec cette considération-là, c'est quelque chose de sacré qui nous anime, qui anime le pèlerin qui va rentrer dans le lieu. Et Notre-Dame de Paris est particulière. Parce que, d'abord, Notre-Dame de Paris, ça naît d'un rêve d'un évêque qui s'appelait Maurice de Sully. Et Maurice de Sully, il a voulu fonder, bâtir à Paris le signe d'une Jérusalem céleste. Il va se donner les moyens d'incarner au mieux la Jérusalem céleste, il va vouloir un cœur immense, pouvant accueillir 1500 personnes. C'est la particularité de Notre-Dame, c'est d'avoir ce cœur gigantesque. Ensuite, les églises, Chartres, va reprendre cette idée de Notre-Dame.
Modèle.
Oui, et le rêve aussi de Maurice de Sully, ça a été un véritable urbaniste, c'est-à-dire qu'il va percer des rues nouvelles pour avoir du recul sur la façade de la cathédrale. Et ça, c'est symbolique aussi, c'est-à-dire que celui qui va cheminer vers la cathédrale, qui va pèleriner vers la cathédrale, avant d'arriver en face des trois portes, va avoir un chemin à accomplir.
Qui va petit à petit lui permettre de s'approcher.
Oui, petit à petit, on se met en mouvement vers la cathédrale. Et évidemment, la contemplation, elle commence dès le parvis.
Puisqu'on parlait de symboles, Paul Amblard, l'orientation, c'est quelque chose de fondamental dans la construction d'un édifice religieux chrétien.
Oui, on est toujours orienté de la même manière. Dans une cathédrale, il s'agit toujours d'aller de l'ombre vers la lumière. D'ailleurs, on rentre du côté de l'ouest et on va vers le cœur à l'est.
Quand on dit orienté, c'est au sens propre du terme.
Oui, parce qu'à l'est, c'est l'endroit où le soleil se lève. Et donc, dans le cœur, le soleil se lève. Et on va vers le soleil qui se lève.
Donc, vous avez parlé de cette cathédrale qui, finalement, représente le corps du Christ. À Notre-Dame de Paris, je crois qu'il faut aussi parler de l'eau qui était présente, d'une fontaine. Est-ce qu'elle y est toujours? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de fontaine?
Alors, cette fontaine, elle n'existe plus. Mais auparavant, il y avait une fontaine qui s'appelait Monsieur le Gris. Parce que face à cette fontaine, il y avait une statue d'un homme énigmatique qui représentait un espèce de sage. Et pour indiquer aux pèlerins qui ne connaissaient pas Paris comment aller à Notre-Dame, on leur disait « Cherchez la statue de Monsieur le Gris ». Mais symboliquement, avoir de l'eau avant d'entrer dans le sanctuaire, c'est un acte de purification. C'est assez joli de savoir qu'il y a eu cette fontaine qui permettait aux pèlerins d'éventuellement aller se purifier avant de rentrer dans le lieu.
On sait où elle se trouvait exactement, cette
fontaine?
Oui,
face à la cathédrale, à peu près au niveau. Aujourd'hui, on a cette espèce de rosace en bronze qui indique le point zéro de toutes les routes de France. C'est-à-dire que on part de Notre-Dame et on mesure la distance qui sépare de toutes les villes de France à partir de la cathédrale. Ce point zéro, c'était à peu près l'endroit de cette fontaine.
Pour vous, est-ce que c'est un lieu sacré?
Oui, quand on voit le nombre de touristes qui rentrent et qui ne vont pas toujours vers un lieu sacré, on pourrait dire où est le sacré dans Notre-Dame? C'est un lieu sacré. Parce que, d'abord, on va vers un cœur, quand même. On va vers un cœur avec un tabernacle où il y a l'Eucharistie. Et c'est un lieu sacré parce que c'est un lieu de prière. C'est avant tout un lieu de prière, Notre-Dame. Et puis, c'est un lieu sacré parce qu'on vient là aussi par la statuaire, par la contemplation du monument, qui est une beauté absolue, que les hommes ont construit. Il ne faut pas oublier, quand même, que les ouvriers qui ont travaillé sur le chantier de Notre-Dame, pour la plupart anonymes, ils l'ont construit pour nous. Et qu'est-ce qu'ils voulaient incarner? Pas du tout un plaisir esthétique. C'était un signe de transcendance. Donc Notre-Dame, oui, comme toutes les églises, c'est un lieu sacré avant tout.
On a prononcé le nom déjà un certain nombre de fois depuis le début de cet entretien. Notre-Dame, pourquoi cette cathédrale est-elle dédiée à Marie, à la mère de Jésus?
Au XIIIe siècle, il va y avoir un engouement pour bâtir des cathédrales. C'est un siècle de prospérité économique et on va en profiter. Il y a une fièvre bâtisseuse qui s'empare des évêques qui veulent tous construire des églises, des cathédrales. Et on va dédier énormément d'églises, de cathédrales à Marie. La Vierge, c'est au XIIIe siècle, il faut vous dire, qu'il y a les franciscains qui sont passés par là. Et on a une piété qui vous voyez, par rapport à avant, où on avait quelque chose, dans la Rome notamment, quelque chose de plus rigide, on a envie de tendresse, de piété, où il y a une douceur qui apparaît. Et les statues de Marie vont montrer une grande différence. Au début, on avait une Vierge trônant, très rigide, présentant l'enfant. Et au XIIIe siècle, on va avoir Marie qui est comme une mère et qui protège, enveloppante par rapport à son enfant, qui l'embrasse, qui a des attitudes maternelles. Et ces attitudes maternelles, elles vont être par rapport à l'enfant Jésus, mais aussi par rapport à toute l'humanité, puisque Marie, c'est la mère de l'humanité. C'est là où on va avoir apparaître ces peintures, ces statues, où on voit Marie dans son manteau, en train de protéger les hommes. Et Notre-Dame, c'est une image de la Vierge, c'est-à-dire que quand on rentre dans Notre-Dame, on est protégé aussi par la Vierge, on est sous la protection de Marie.
Mais dans quelle mesure est-ce qu'elle montre son fils? Dans quelle mesure est-ce qu'elle indique celui qui est le sauveur? Ça n'est pas elle qui sauve le monde.
Non, ce n'est pas elle qui sauve le monde, mais à Notre-Dame, nous avons une multitude de statues où elle montre son fils, où elle le présente. Bon, c'est la phrase de Saint Bernard. Si la majesté divine vous effraie, invoque Marie. Voilà, c'est un petit peu cette piété-là qui nous est offerte à Notre-Dame.
Merci beaucoup, Paul Emblaret. On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci.
Avec plaisir.
Et tout de suite, nous retrouvons l'émission Oxygène, proposée par Camille Meyer.
Bonjour à tous, je m'appelle frère Jean-Yves, je suis frère de Saint-Jean. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la conversion. La conversion à laquelle le Christ nous appelle, à chaque moment de notre vie, à chaque instant, il nous appelle à un plus. Il nous appelle à un plus de vie, il nous appelle à un plus de croissance, il nous appelle à nous rapprocher de lui. Chers auditeurs, Dieu attend quelque chose de vous. C'est ce que disait le pape François aux jeunes. Dieu attend quelque chose de nous. Il attend notre bonne volonté. Il attend notre coopération à la grâce. Chers auditeurs, à chaque fois que nous travaillons sur nous-mêmes, à chaque fois que nous rentrons dans un regard de lucidité sur les lieux où nous devons progresser, Dieu bénit ces discernements pour que nous puissions effectivement nous rapprocher de lui. La conversion, c'est entendre un appel, c'est se retourner, c'est entendre Dieu qui m'appelle à quelque chose de plus. Et pour cela, je dois me connaître, pour cela je dois identifier mon lieu de conversion, mon lieu de progression, mon lieu de croissance. Alors, n'ayons pas peur de travailler sur nous-mêmes, n'ayons pas peur d'entendre le Christ qui nous appelle à plus de vie, à plus de vitalité, à plus de liberté. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une méthode simple de discernement sur nos lieux de conversion. Vous avez peut-être déjà entendu des 5 dynamiques de croissance, les 5 dynamiques essentielles à notre vie chrétienne. Je vous les redis. Première dynamique, la prière et la louange. Cette dynamique qui tourne notre regard vers le ciel, vers le haut. Deuxième dynamique, la fraternité. La fraternité qui élargit notre espace, notre regard vers l'extérieur. Troisième dynamique, le service. Le service qui nous apprend à nous abaisser, à tourner notre regard vers l'autre et à nous mettre à genoux comme le Christ qui lave les pieds de ses disciples. Quatrième dynamique, l'évangélisation. L'évangélisation qui nous porte vers l'autre, qui nous porte à annoncer la bonne nouvelle. Cinquième dynamique, la formation. Cette dynamique qui, au contraire, je le dirais presque, me tourne vers moi, c'est-à-dire vers mon besoin de me former pour pouvoir me nourrir de la parole de Dieu, pour pouvoir me nourrir de l'enseignement de l'Église et pour pouvoir ensuite être en capacité de donner. Alors, en regardant ces cinq dynamiques, en regardant ces cinq éléments essentiels de ma vie chrétienne, eh bien, je peux discerner finalement où est-ce que je suis en capacité, où est-ce que, je dirais, sont mes points forts, et je peux aussi reconnaître les endroits où je suis moins bon, tout simplement, où j'ai plus de difficultés. Est-ce que la vie de prière est pour moi quelque chose de simple, alors que, par exemple, le service est quelque chose de compliqué? Oh, pour moi, il est facile de participer à des maraudes, de participer à des restos du cœur, à des services sociaux. Mais alors, par contre, de me former est quelque chose de compliqué. Or, chers auditeurs, ces cinq dynamiques sont essentielles. Je ne peux pas écarter une de ces dynamiques. La prière doit être présente dans toute vie chrétienne. La fraternité doit être présente dans toute vie chrétienne. Le service, l'évangélisation, la formation. Dieu attend quelque chose de nous. Il attend quelque chose de toi qui écoutes. Il attend que tu puisses croître. Il attend que tu puisses progresser, y compris dans cette dynamique qui est pour toi plus difficile. C'est ainsi que tu trouveras une vie équilibrée, une vie chrétienne qui correspond à l'ensemble de la vie chrétienne et non pas simplement là où tu es plus compétent. Il s'agit donc de discerner pour toi la dynamique où tu as plus de facilité et de reconnaître la dynamique où tu as plus de difficultés. Peut-être que cette dynamique faible est pour toi l'occasion d'une conversion. Chers auditeurs, vous remarquez que lorsque nous choisissons des efforts de début d'année, quand nous travaillons à notre conversion, eh bien, facilement, nous ne réalisons pas ces points que nous avons mis en lumière. Nous avons du mal à tenir nos efforts. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que bien souvent, nous choisissons des lieux, des aspects qui ne sont pas à notre mesure, qui sont trop dans l'ordre de l'idéal. Je choisis de prier le chapelet tous les jours alors que j'ai du mal à dire simplement un « Je vous salue Marie » par jour. Je choisis des choses qui ne sont pas atteignables et finalement je deviens frustré. Finalement, je deviens frustré de tous ces efforts que je ne tiens jamais. Alors, il nous faut pouvoir choisir des lieux de conversion étape par étape, marche par marche. Il faut pouvoir simplement faire le premier pas qui me met en mouvement. Alors, voilà ce que je vous conseille pour pouvoir discerner le bon effort, le pas qui est à faire. Est-ce que ce pas est suffisamment précis, clair et compréhensible? Vous voyez, par exemple, si jamais mon effort c'est de prier plus, eh bien ce n'est pas assez précis. Est-ce que cet effort est mesurable? Est-ce que je peux évaluer cet effort? Par exemple, si jamais je dis encore une fois qu'il me faut plus prier, je ne peux pas le mesurer. Par contre, si jamais mon effort, c'est de prier 5 minutes par jour, alors il est mesurable. Si jamais mon effort, c'est de dire un autre Père et dis je vous salue Marie, alors il est suffisamment précis. Est-ce que mon effort est adapté à la conversion à laquelle je me sens appelé? Est-ce que mon effort est réaliste selon mes réelles capacités? Vous voyez, en rentrant dans ce réalisme de ce à quoi je suis appelé, en étant capable de le mesurer, de l'adapter à ce que je peux faire, alors je vais pouvoir rentrer dans un réel chemin de conversion. L'enjeu, c'est de faire le premier pas. L'enjeu, c'est de pouvoir me mettre en mouvement, parce que c'est dans le mouvement que la vie est présente. Le grand danger, vous le savez, c'est l'immobilisme. Et lorsque je prends des résolutions qui sont trop dures, quand je prends des résolutions qui sont inatteignables, finalement, je reste immobile. Alors il faut la pédagogie des petits pas. Il faut la pédagogie de ce qui est accessible pour moi. Et alors, petit à petit, il y a une réelle croissance qui va s'opérer. Alors, petit à petit, oui, il y a un chemin qui s'ouvre devant moi. Alors je vous invite, après cette petite émission, eh bien, à réfléchir sur le lieu de croissance, le lieu de conversion auquel le Christ vous appelle, et puis ensuite à voir ce qui est réaliste. Qu'est-ce que je peux faire? qu'est-ce qui est accessible pour moi, et à le choisir. Oh, peut-être que ce sera minime, peut-être que cela vous paraîtra trop peu, et pourtant, dans la fidélité, ce petit peu va devenir probablement la source d'un dynamisme, va devenir un petit pas qui, accolé à d'autres petits pas, va vous faire rentrer dans un réel chemin de conversion. Je vous souhaite à tous une bonne journée.
Merci frère Jean-Yves, je le rappelle, vous êtes frère de Saint-Jean et curé de la paroisse Sainte-Cécile à Boulogne-Billancourt.
RCF, la prière du matin.
En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « va » et il va. À un autre, « viens » et il vient. Et à mon esclave, « fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux.
Aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus n'est pas politiquement correct. Et il prend le risque de choquer en mettant à l'honneur, en montrant en exemple, la foi d'un homme qui ne devrait pas avoir la foi, selon certains critères trop humains, qui ne devrait surtout pas être montré en exemple, parce qu'il n'appartient pas à notre groupe, à notre communauté, parce qu'il est du parti de ceux qu'on considère comme des ennemis, des collaborateurs, parce qu'il ne pense pas comme nous. À l'époque, nous étions loin de l'invention des réseaux sociaux. Pourtant, dans le contexte des réseaux sociaux, l'évangile d'aujourd'hui est très important. Jésus nous libère par cette mise en valeur d'un centurion romain. Il nous libère de tous nos a priori, de tous nos jugements faciles et définitifs. Souvent sur les réseaux, il n'y a aucune nuance, aucune charité aussi, et des analyses réductrices qui engendrent la violence et la guerre. Chaque groupe essaye de faire valoir son point de vue en humiliant, en accusant les autres, ceux qui ne peuvent pas faire partie des gens bien parce qu'ils ne sont pas de notre groupe. Au contraire, Jésus ne cesse de montrer aux disciples des exemples de sainteté qui viennent d'ailleurs. Le centurion, la syrophénicienne, Marie de Béthanie, la samaritaine, Zachée, etc. La grâce est offerte à tous, le salut est offert au monde entier. Il n'est pas réservé à certains. Dieu est infiniment libre. Apprenons de lui cette liberté et à sa suite, sachons découvrir combien les autres peuvent être bons et saints, et aussi ceux qui ne nous ressemblent pas et qui mettent à mal nos petits critères.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
jette à tes pieds, Seigneur. Viens vite à mon secours. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Toi seul est mon recours. Je dépose à tes pieds, Seigneur, toutes mes maladies. J'ai toute foi en toi, Seigneur, en tout ce que tu dis.
Le saint du jour, Isabelle Delaunay.
Bonjour, en ce 2 décembre, nous fêtons les Vivianes, prénom qui signifie « pleine de vie ». Sainte Viviane, ou Bibiane, serait une martyre du IVe siècle, à Rome, sous Julien l'Apostat, le neveu de Constantin qui avait renié son baptême. Jeune chrétienne, fille du préfet de Rome, Flavius, elle vit son père mis à mort. Mais elle refusa d'apostasier, c'est-à-dire de renier sa foi. Elle fut alors confiée à une entremetteuse chargée de la débaucher, mais rien n'y fit. Viviane fut donc attachée à une colonne et rouée de coups jusqu'à la mort. Cette colonne de marbre rouge se trouverait encore dans la petite église Bibiana, ornée d'une belle statue sculptée par Le Bernin, située au-dessus de l'autel. C'est une jolie petite église baroque, près de la gare de Termini. Au-dessus de l'autel. C'est une jolie petite église baroque, près de la gare de Termini.
Nous fêtons aussi aujourd'hui un grand mystique flamand, le bienheureux Jan van Ruysbroeck, ou Jean de Ruysbroeck, près de Bruxelles.
Il vivait au XIVe siècle, à la même époque que Catherine de Sienne, un siècle très difficile où les guerres, les famines et la peste firent des ravages, sans parler de la division de l'Église et de son laxisme moral. Jean de Ruysbroeck a un regard très acéré sur le monde et sur l'Église. Selon lui, la cause de tous ces maux, c'est la pauvreté de la vie intérieure. Maître spirituel, il publia de nombreux ouvrages, dont « Les noces spirituelles », où il écrit « Lorsque l'on veut rencontrer le Christ, il faut s'oublier soi-même, ne plus se chercher, garder les yeux fixés sur le Seigneur et le cœur toujours en louange. » Oui. Saint Jean de Ruysbroeck, surnommé Ruysbroeck l'Admirable, est le chantre de l'union avec Dieu.
Le béaba du christianisme vous fait redécouvrir les fondements de la religion chrétienne. Pauline de Torsiac nous éclaire sur les traditions, les offices, les sacrements des premières communautés à nos jours. Le béaba du christianisme, c'est chaque mardi à 15h.
Vous souhaitez préserver l'indépendance de RCF et la qualité de ses programmes? Soutenez financièrement votre radio par un don. RCF étant reconnu d'intérêt général, votre don vous ouvre droit à une réduction fiscale de 66% de son montant. Faites un chèque avant le 31 décembre à RCF Solidarité, 69 321 Lyon, CEDEX 05. RCF, la joie de donner.